Ça va, pas mal. Et vous, ça va? Comment va le monde? Ah oui, Avignon, le festival et le cycle de lecture, ça va le monde. Pas de point d'interrogation, le monde va comme il peut, tragique parfois et lumineux aussi. Ça va le monde comme une salutation, point d'exclamation.
Pascal Paradou.
Tous les ans, ici, dans le jardin de la Maison Jean Villard, RFI organise un cycle de lecture en public, puis diffuse celle-ci sur ses antennes. Et c'est ce week-end la première avec Opéra Poussière, la pièce de Jean d'Amérique qui a obtenu le prix RFI Théâtre et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean d'Amérique.
Bonjour.
Première lecture et premier festival pour vous, je me trompe?
C'est pas le premier festival pour moi, mais une première dans Ça va le monde.
Quelle impression vous donne ce festival d'Avignon?
C'est une utopie à ciel ouvert et ça fait du bien de voir autant de gens réunis avec le théâtre comme prétexte. Et le cycle Ça va le monde, c'est un espace où la parole résonne. Moi, j'aime beaucoup quand la parole est donnée dans sa chair, qu'on peut la palper et la sentir. Et c'est ça que j'ai vécu dans ces lectures et particulièrement à l'écoute d'Opéra Poussière.
Alors avec vous, Nathalie Unvo-Yekpe, bonjour.
Bonjour Pascal.
Course aux noces sera lue le samedi suivant sur les antennes de RFI et ainsi de suite, puisqu'il y a en tout 6 textes, dont Fantôme de Dieudonné Anguna ou Terre Sainte, qui est l'adaptation du roman de Mohamed Mougarsar, donc des auteurs reconnus et puis des plus jeunes aujourd'hui, puisque la parole est à vous. Nathalie, c'est un premier festival ou pas pour vous?
Oui, c'est la toute première fois que je suis sur le festival d'Avignon.
Et depuis Cotonou, est-ce que vous imaginiez les choses comme cela, avec ce monde, cette ville qui est envahie par le théâtre, la profusion de spectateurs et de spectacles?
Je croyais imaginer ce qui se passe chaque année sur le festival d'Avignon, mais j'étais vraiment loin de la réalité. C'est immense.
Par le nombre?
Par le nombre de
Ou par la
spectateurs,
vibration?
par la vibration, par la volonté que chaque équipe de spectacle met à vouloir attirer le spectateur à lui. C'est un jeu de séduction entre comédiens, entre textes, entre théâtre et son public. C'est fou.
C'est fou. Des spectacles tout format, en tout lieu. Et puis des lectures comme celle de Ça va, qui sont dirigées par Armel Roussel. Est-ce que c'est un format que vous connaissez bien en Haïti ou au Bénin? Est-ce qu'il y a beaucoup de lectures, de textes de théâtre, donc avant la représentation, avant la production, Nathalie?
Souvent, oui. Depuis quelques années, il y a quelques séances de lecture pour un peu palper la réception du public par rapport à un texte, mais c'est rare, c'est pas beaucoup.
Palper la réaction du public, c'est assez érotique cette
La
affaire.
réception.
Jean d'Amérique, est-ce qu'en Haïti, il y a beaucoup de lectures? Oui, pas mal, notamment dans le festival Quatre Chemins.
Oui, c'est ça. On a cette habitude de lecture. Je crois qu'on aime beaucoup en Haïti vivre le texte en lui-même, je veux dire avec la voix. Donc on a cette habitude de porter le texte à haute voix. Et des fois même pour des textes qui vont pas forcément exister en spectacle parce que voilà, un peu compliqué les moyens de production souvent. Donc il y a des textes qui existent vraiment qu'en lecture et c'est très bien aussi.
Des textes lus, donc, c'est une première existence, en fait, pour ces textes quand ils sortent de la page et du livre.
C'est une existence.
C'est une existence. Alors, cette année, nous avons célébré la 10e édition de ce cycle Ça va le monde, mais je vous propose de revenir en arrière en 2013. Donc, Dieudonné Nyanguna était cette année-là artiste associé du Festival d'Avignon. C'était la première fois qu'un auteur originaire d'Afrique était artiste associé, donc à la une de ce festival, ce qui a donné naissance à ce cycle Ça va le monde, et la metteuse en scène Catherine Boskowitz se lançait dans l'aventure avec un certain plaisir.
D'abord, c'était la fête. Il y avait quelque chose d'extrêmement... Il y a toujours, d'ailleurs, mais il y a quelque chose d'extrêmement festif à faire découvrir de nouveaux textes d'auteurs du monde entier francophone. À l'époque, c'était uniquement sur le continent africain. Les auteurs venaient du continent africain, mais ensuite, ça s'est élargi. Ensuite, c'était aussi l'idée que des comédiens qui ne connaissaient pas ces textes s'en emparent. Souvenez-vous, les comédiens qui intervenaient étaient des comédiens qui jouaient sur le festival en in et en off. Et puis, c'était surtout l'idée que des gens, le public, allaient être intéressés par ces nouvelles écritures. Et là, c'est vrai que ça a marché, en fait.
10 ans après, vous dites pari gagné ?
Je pense que c'est un pari gagné, tout à fait au niveau du public, c'est évident, puisque les gens viennent et reviennent. Maintenant, la question que je me pose, c'est le décloisonnement. C'est-à-dire, comment est-ce que ces auteurs, ces textes, peuvent s'inscrire à l'intérieur de processus de lecture ou de découverte qui ne soient pas uniquement focalisés sur le pays d'où ils viennent.
Armelle Roussel, pourquoi avoir accepté de diriger ce cycle de lecture qui fait entendre des auteurs africains au Festival d'Avignon ?
Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est de me confronter à une littérature dramatique que je ne connais pas. Donc, de pouvoir voyager moi-même à l'intérieur d'écritures liées à des réalités, même si je suis déjà allé en Afrique, mais où je ne connais pas forcément comment ces réalités peuvent être traduites dans le théâtre. Donc ça, évidemment, c'est la chose première. Et puis la deuxième, qui est très simple, qui est l'exercice spécifique de la mise en voix, de la mise en lecture, puisque... On doit se transformer en passeur véritablement de ce que l'on a pu comprendre, de ce qu'on lit, tout en mettant une forme de distance. Donc c'est entre la distanciation et l'incarnation. Et il y a quelque chose là, un exercice très particulier qui m'intéressait.
Cela participe de la visibilité des auteurs ou des textes, sachant que ce n'est pas forcément la même chose, d'auteurs africains ou haïtiens, en tout cas de la francophonie du Sud.
Moi, j'ai des retours. Quasiment tous les ans, enfin même tous les ans, après beaucoup de textes de gens qui me trouvent sur les réseaux sociaux, qui peuvent venir, ça peut être des jeunes acteurs au Congo, mais ça peut être aussi de simples auditeurs dans d'autres pays, qui m'envoient des messages pour commenter ou pour parler des textes et de ce qu'ils ont entendu, avec une petite différence souvent ici en France, quand on parle de théâtre, on va parler de ce qu'est le théâtre, de la forme théâtrale, de savoir si on a aimé le théâtre ou pas aimé le théâtre, et que les messages que je reçois parlent beaucoup du propos, du fond, de ce que le théâtre a véhiculé. Souvent, il y a beaucoup de sujets très politiques, très en lien avec la cité, donc les réactions sont très fortes sur le fond, plus que sur la forme, même si la forme est aussi le vecteur d'émotion.
Catherine Boscovitz et Armelle Roussel qui ont donc dirigé successivement ce cycle de lecture. Jean, Nathalie, haïtien, béninoise, est-ce que vous avez le sentiment que la visibilité des auteurs du Sud est d'une certaine façon un combat et qu'il y a un travail de décloisonnement encore à faire ?
Évidemment, depuis 10 ans, donc grâce à ce cycle ça va le monde, c'est sûr, il est très suivi au Bénin. Je le sais. Donc, c'est une émission qui a permis de mettre la lumière sur beaucoup de jeunes auteurs béninois ou des pays d'à côté. Mais il reste beaucoup à faire, surtout au niveau des femmes, des jeunes autrices. Et justement, moi, mon test, suis ça va le monde. Pour moi, c'est une façon de dire à toutes les autres qui hésitent encore que c'est possible.
On va en reparler. Voilà. Jean d'Amérique.
Ouais, je pense que c'est important qu'il existe des espaces comme ça de découverte. Et j'ai bien aimé entendre Catherine Boscovitz dire le fait que ça ne doit pas rester en quelque chose qui garde ces auteurs dans une périphérie, comme quoi ils doivent être que là. Je pense que c'est intéressant comme un espace de découverte. Moi-même, j'ai découvert des textes via ce cycle de lecture en écoutant sur RFI. Mais je pense qu'il ne faut pas que ces auteurs-là restent que dans ce cadre.
On va lancer un appel au futur directeur du Festival d'Avignon. Sait-on jamais, Thiago Rodriguez ? En tout cas, pour ces 10 ans, nous avons organisé une palabre ici, dans le jardin de la maison Jean Villard, toujours, pour raconter cette décennie, notamment de théâtre africain, entre le Nord et le Sud. Palabre à retrouver sur la page Facebook et sur le site de RFI. Et il y avait donc des paroles et de la musique, celle de Séni Camara. Camara à la Cora, le Festival d'Avignon et les lectures RFI, les auditeurs pourront écouter dès samedi votre texte Jean d'Amérique, Opéra Poussière, qui raconte l'histoire d'une personnalité haïtienne, Sanit Belair, qui est à la fois connue et méconnue.
Oui, on peut le dire comme ça, parce que moi, ce qui m'a amené à l'écriture de cette pièce autour de Sanit Belair, c'est... Parce qu'à l'école, quand j'étais plus jeune, on m'avait évoqué son nom, mais on ne m'avait pas enseigné son histoire. Et plus tard, quand j'ai découvert ça moi-même, ça m'a amené à fouiller là-dessus. Et je me suis dit, oui, on connaît son nom en Haïti, on a déjà entendu parler d'elle, mais on ne connaît pas grand-chose d'elle. Et aussi dans les espaces symboliques de représentation de gens qui ont marqué notre histoire, je ne la vois pas. Notamment dans les livres d'histoire, dans les symboles comme les statues par exemple. En fait, dans tout ce qui convoque l'imaginaire et qui va rester dans la tête des gens, elle n'est pas là ou bien elle est sous-représentée.
Alors il faut dire quand même deux mots de son histoire. Elle est assassinée par les colons français, elle a 23 ans. Et elle était enrôlée dans l'armée révolutionnaire haïtienne.
Oui, elle s'est engagée très tôt dans l'armée révolutionnaire haïtienne. Et ce qui est important, c'est qu'à l'époque, elle a posé un geste politique qui était fort, même face à la mort. C'est qu'à l'époque, quand on capturait des rebelles, ben, on fusillait les hommes, on décapitait les femmes. Et elle, quand on l'a capturée, elle a refusé d'être décapitée parce qu'elle voulait être traitée comme tout le monde, et elle a obtenu le droit d'être fusillée. Donc déjà, ce geste-là m'intéressait, et c'est là que je suis allé creuser. Bon, il y a une forte absence de matière sur elle, mais qui m'a servi aussi pour l'écriture de la pièce.
Pour autant, ce n'est pas du tout une pièce chronologique ou historique. Au contraire, c'est une rêverie. Sanit Belair reviendrait parmi nous avec un compte Twitter, Facebook et Instagram.
J'aime bien l'idée que ce soit une rêverie, c'est ça. Mais c'est un rêve que j'ai voulu rendre réel, c'est-à-dire qui précède l'écriture de la pièce, d'où l'idée aussi de l'accompagner de cette forme un peu performative où elle agit vraiment, elle pose des actions vraiment dans le réel. Donc, c'est vrai qu'en parallèle, ce qui se passe dans la pièce semble se passer dans la réalité. Donc, Sanit Belair est vraiment présente sur les réseaux sociaux où elle fait ses déclarations. Et dans la pièce, elle revient d'outre-tombe, nous hanter et être parmi nous. Pour moi, dans l'écriture, j'ai réalisé mon rêve de la ramener dans notre époque.
Et elle revient donc du monde des morts et elle va donc réclamer sa place sur le Champ de Mars à Port-au-Prince, justement parmi les statues des pères de la nation.
Oui, là c'est symbolique et c'était important parce que c'est vraiment une place publique la plus grande qui existe en Haïti et où il y a les statues de ces quatre héros qui forment un panthéon presque intouchable de l'histoire haïtienne. Et moi je vois cet espace que enfin, tout le monde côtoie tous les jours, il se passe plein de choses. Et je me dis, c'est dans des lieux comme ça aussi que l'histoire se transmet par les images qu'on convoque et qu'on met dans la tête des gens. Et donc, c'était symbolique de remobiliser cet espace et de faire en sorte que Sanit Belair apparaisse dans cet espace même.
Et disent « je veux ma place, je veux ma statue ». Pourquoi opéra, voilà. Ce n'est pas un opéra ?
C'en est un, pourtant. Pour moi, quand j'écris, c'est toujours des espèces de chants qui peuvent prendre en compte plusieurs voix. Mais l'idée, c'est de composer l'écriture comme un chant. Et il y a aussi cette force que j'essaye de donner à mes personnages pour qu'ils existent par la parole, par la voix. Donc il y a tout ça qui résonne. Par exemple, Sanit Belair, dans la pièce, elle existe beaucoup du fait qu'elle choisisse de prendre la parole et qu'elle fait de ça son arme. Et c'est le cas pour mes personnages.
Et puis vous, en tant qu'auteur, Jean d'Amérique, vous avez commencé avec la musique, justement, avec le slam et le rap.
Oui, c'est
ça. Donc il faut que les mots sonnent.
Tout à fait.
Et du rythme.
Tout à fait. Je pense que l'écriture même et les respirations, il faut que ça s'accorde à ma musique intérieure. Et chacun trouve sa respiration. Et même en lecture, quand les gens lisent le texte, ils l'accompagnent de leur propre respiration et c'est de la musique.
Opéra Poussière avec Sacha Anacazis dans le rôle de l'héroïne. C'était dans le jardin de la maison Jean Villard pour la première lecture de Ça va le monde qu'on va pouvoir écouter maintenant sur les antennes de RFI.
On dit que chaque seconde c'était une étoile, que le sang ralentit et que l'oxygène s'épuise. On dit que c'est la nuit qui arrive. On dit que les rideaux vont bientôt se fermer, que la saison sera blanche. Et que je dormirai dehors, loin des pages de la grande histoire. On dit que chaque jour qui passe, les clous se resserrent et que les chaînes mûrissent. Pourtant, je les ai cassés. Je les ai bien cassés dans le champ de Saint-Domingue. Qu'avez-vous fait de mes combats? On dit que mon visage sera voisin de la nuit, que mes gestes seront trop épais, que les rides vont dévorer ma lumière et que mon corps va faire faillite. On dit de demain temps fragile et qu'il faut de l'ordre à mes élans. Et si c'était vos yeux qui vieillissent? Je reviens de la poussière. Je reviens vous hanter.
Jean d'Amérique, si les femmes avaient eu plus de place dans les révolutions, est-ce que vous pensez que l'histoire aurait été différente? Question difficile, mais après tout...
Mais il y a une évidence aussi, forcément, elle serait différente parce que le monde dont on rêve, en tout cas dont moi je rêve, c'est ce monde-là que j'écris aussi, celui dont je rêve. C'est-à-dire où en fait la place des femmes, qu'elle ne soit pas une exception, tout simplement. C'est-à-dire, j'aurais même pas besoin d'en parler en fait. Je rêve d'un monde où dans la normalité, on ne se pose plus ces questions-là.
Et c'est vrai que le travail de l'écrivain ou du poète, c'est d'inventer, de proposer de nouveaux modèles ou de nouveaux équilibres.
Exactement, proposer de nouvelles représentations du monde. Moi, si j'écris, c'est parce que j'espère transformer le monde, en tout cas participer à sa transformation. Donc, ce n'est pas seulement en crachant sur les représentations qui sont problématiques que je peux le faire, mais aussi en proposant d'autres modèles où les gens peuvent entrer et laisser ça infuser leur esprit.
Opéra Poussière, l'histoire donc d'une femme martyre qui devient une héroïne dans votre pièce de théâtre Jean d'Amérique. Haïti, Bénin, le deuxième texte lu et diffusé sur RFI sera le vôtre, Nathalie Mbo-Yakpé, Course aux noces, et c'est une histoire de femmes aussi. Est-ce qu'elles sont martyres ou est-ce qu'elles sont héroïnes?
Elles ne sont ni martyres ni héroïnes. Elles essayent de vivre leur vie, pas celle qu'on veut leur imposer.
Et la pièce se passe aujourd'hui. Elle est extraordinairement contemporaine. J'ai presque envie de dire, c'est une tendance du théâtre occidental, que c'est presque du théâtre documentaire.
Ah oui, on peut le dire comme ça. En tout cas, ça se passe aujourd'hui. Les histoires ne sont pas des histoires inventées. C'est des histoires vraies de différentes vies, de plusieurs vies qui s'entremêlent aujourd'hui.
Trois sœurs confrontées à la question du couple, du mariage ou de la solitude,
oui,
et de l'opinion publique.
Oui, trois sœurs qui ont apparemment un destin lié et qui vivent leur vie chacune de son côté, mais une vie qui est très influencée par les autres. par tous ceux qui entourent, parce que les autres pensent. Et c'est ce que moi, Nathalie, je pense des réseaux sociaux aujourd'hui. On vit selon ce que les gens pensent de nous sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça que j'essaye de mettre. Je n'essaye pas de changer quoi que ce soit. Je mets juste un miroir. Je peins peut-être les choses un peu de façon grotesque, mais un peu pour attirer l'attention.
La pièce commence par le suicide de l'une de ses trois sœurs, justement parce qu'elle est célibataire et elle ne supporte pas la pression de l'opinion publique. Mais au fur et à mesure de la pièce, on voit aussi que l'une de ses sœurs, qui est mariée et a priori bien mariée, ne vit pas une vie de rêve, bien au contraire. Qui a l'avantage ?
Est-ce que la femme a jamais l'avantage ? En tout cas, jusque-là, je ne sais pas. Mais celle qui essaye de se suicider, justement, c'est la seule parmi les trois qui résiste, qui ne se laisse pas influencer, mais à un moment donné, elle chute sous la pression, sous ce que la tradition ou les opinions lui imposent. Et après, elle n'a pas du tout tort de résister, parce que le temps lui donne raison, même si on ne sait jamais.
C'est très difficile d'être une femme célibataire,
oui,
au Bénin.
Surtout. Je connais beaucoup de femmes qui disent « ce n'est pas grave, il faut que j'attende le bon moment ».
Mais dans votre pièce, la femme mariée, quand même, elle a vécu un cauchemar. Parce qu'on ne va pas tout raconter, puisque les auditeurs vont l'entendre, mais c'est une décennie d'horreur qu'elle aura vécue, alors que tout le monde pensait, encore une fois, tout le monde pensait qu'elle était bien mariée.
Parce qu'encore une fois, il faut qu'elle maintienne l'image de « elle vit bien ». Et vivre bien dans ces régions-là, c'est une femme qui s'est mariée et qui arrive à garder son foyer jusqu'à vieillir. Donc on peut mourir, mais il faut mourir dans le foyer, donc sous le toit de son mari. Ça, c'est ce qu'elle a essayé de faire pendant une décennie. Et je crois qu'il y en a qui le font toute leur vie.
Alors, je ne vais pas vous demander votre main, Nathalie, mais vous êtes mariée ?
Je préfère ne pas répondre, Pascal.
Course aux noces, extrait de votre pièce avec Babetida Sadjo, Fatouane et Edoxy Nioula et les élèves de l'École du Nord.
Qui aurait cru ?
Cru quoi ?
Que ce jour arriverait.
Ne mets pas la charrue avant les bœufs.
C'est-à-dire ?
Qu'il faut attendre le oui.
Ah ouais ?
Bah, tant qu'il n'a pas dit oui, rien n'est encore acquis.
Mais ne me dis pas que tu crois qu'il va se dégonfler.
Est-ce que tu aurais cru ?
Cru quoi ?
Que ce jour arriverait.
Non.
Donc arrête de croire ou de ne pas croire.
Elle est en retard.
Pas vrai, il n'est pas encore l'heure.
Moi, à sa place, je serais arrivé bien avant l'heure.
Normal, toi, t'es un homme. C'est quoi le rapport ?
Il est normal que l'homme attende la femme, pas l'inverse.
Foutaise, quelle loi dit ça ?
Bah, celle de la nature.
Mais quelle nature ? Elle a envoûté le gars, ouais.
Ah ouais ? Tu crois que c'est pas un amour naturel ?
Qui parle encore d'amour naturel au XXIe siècle ?
Et je donnerais mes fesses à couper qu'elle l'a ensorcelé.
Elle et ses sœurs, la grande famille aussi. Ils se sont tous occupés de son cas. Ils ont lavé le linge sale entre eux jusqu'à trouver celui qu'il faut.
On n'est pas dupes, hein. Ce mariage est une mascarade.
Mais je ne crois pas. Il n'aurait jamais accepté un tel deal. C'est un homme cultivé.
On dit qu'elle lui a fait le oui-oui.
Le oui-oui ?
Oui.
Mais quand une femme te fait le oui-oui, tu dois répondre oui à tous ses désirs. C'est l'envoûtement le plus puissant de tous les temps.
En plus, elle est de la région de Banamé.
Mais non, elle est vraiment de Banamé ?
Pourquoi ?
On dit que les femmes de là-bas sont très puissantes. On dit qu'une femme de Banamé peut faire le oui-oui à Dieu lui-même si elle lui jette son dévolu.
Pauvre docteur.
Il n'est pas si pauvre que ça, je dirais même qu'il a de la chance.
De la chance, tu rigoles ?
Marier une vraie demoiselle, c'est pas donné de nos jours.
Vraie demoiselle ? Oh, vieille fille comme ça ?
Bah, elle au moins n'a pas de gosse. Hein. Parce qu'il y en a des jeunes filles qui sont plus tellement jeunes. Il y en a partout d'ailleurs.
Course aux noces, lu au Festival d'Avignon dans le cycle Ça va, ça va le monde et bientôt sur l'antenne de RFI. Nathalie Ounvoyekpé, au départ, vous êtes comédienne et ce texte-là est parmi les premiers textes que vous écrivez. Est-ce que c'est une façon de prendre la parole encore plus fortement que d'écrire ?
Oui, ce texte est le tout premier. Donc c'est la toute première pièce que j'écris. Moi-même, en tant que Nathalie, j'ai co-écrit une pièce dans le passé, mais on l'a écrit à quatre mains. Donc c'est la première fois que j'écris une pièce de théâtre. Et oui, on peut le dire comme ça, que c'est une façon, parce que pendant longtemps, j'ai beaucoup hésité. J'ai toujours eu envie d'écrire, mais je ne me sentais pas capable. Et là, on m'a offert l'opportunité de le faire. de m'accompagner parce que j'ai été beaucoup accompagnée. Et pour moi, à partir de maintenant, c'est qu'il faut écrire, 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 écrire.
Mais alors, on dit justement qu'il n'y a pas beaucoup de femmes autrices parce qu'elles ne s'autorisent pas à écrire. Vous pensez que c'est la principale raison, ou c'est parce que la pression qu'on évoquait tout à l'heure sur le statut de la femme joue?
Oui, justement, ce que cette pression fait, c'est qu'elle vous fait douter de vous en permanence. Vous passez votre vie à vous dire que vous n'êtes pas capable de faire ci, de faire ça. Vous n'êtes pas capable de prendre une voiture et de conduire sur 50 km. Ça, c'est réservé aux mecs. Vous n'êtes pas capable de ci, vous n'êtes pas capable de ça. Et c'est ce que ça fait, cette pression. Ça finit par vous embrouiller et vous ne savez plus qui vous êtes réellement. Et maintenant que moi j'écris, et j'espère que d'autres femmes, je sais qu'il y en a plein qui écrivent, qui n'osent pas même montrer leur écriture, vont oser.
On espère. Qu'en est-il en Haïti, Jean d'Amérique? Les femmes s'autorisent davantage à écrire? Il y a des autrices de théâtre et des autrices de romans aussi.
Oui, je pense que de plus en plus, les jeunes femmes s'autorisent à écrire. Quand on fait un panorama de la littérature haïtienne, je pense que ce qui a toujours posé problème, c'est le fait qu'il n'y a pas d'exemple, de modèle. Et ce n'est pas que dans ce cadre-là. Je l'ai déjà vu dans d'autres contextes où, par exemple, il y a toute une époque, les gens qui faisaient de la littérature en Haïti, ils venaient tous de classes aisées, de la bourgeoisie. Donc même toi, tu venais d'un quartier populaire, enfin, tu ne te sentais pas autorisé à faire de la littérature.
Ce qui est votre cas.
Ce qui est mon cas, oui. Et je pense que c'est des choses qui commencent à changer. Et c'était la même chose pour les jeunes femmes qui n'avaient pas d'exemple assez pour s'autoriser à le faire.
Donc Nathalie va bientôt avoir sa statue sur la place principale de Cotonou.
Oui, mais je dois quand même souligner qu'il y a quelques femmes qui écrivent, mais qui écrivent des romans, des nouvelles.
Mais il y a aussi des autrices, notamment au Bénin, de théâtre.
De théâtre, il y a Mireille.
On en connaît quelques-unes. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices, trentenaires, c'est-à-dire à peu près votre âge. Très rapidement, quel est votre rêve? Pas pour vous particulièrement, mais pour le monde. Est-ce que c'est de remplir le monde de mots?
Je vais voler le rêve de Jean, qui est le mien, je le partage avec lui. Moi, mon plus grand rêve, c'est que d'ici là, on ne parle plus d'hommes et de femmes, qu'on n'ait même plus à discuter de ça.
Jean?
Ça, c'est super. Je pense que ça fait partie de mes rêves, évidemment. Peut-être que je dirais encore plus globalement, de voir les inégalités cesser dans le monde. Parce que moi, je viens d'une histoire d'inégalité et l'écriture m'a donné un outil pour combattre ça. Donc j'espère que cette écriture-là va participer à faire cesser les inégalités dans le monde.
Merci à tous les deux. Merci pour vos mots et vos rêves. Nathalie Unvo-Yekpe, on entend votre texte donc dans une semaine. Quant à vous, Jean d'Amérique, Opéra Poussière, qui est édité chez Théâtral, c'est ce samedi. Merci beaucoup de vive voix en direct d'Avignon, Pascal Paradou avec Cécile Labolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Et j'oublie de donner l'heure de diffusion de Ça va le monde. C'est le samedi à 17h10, heure de Paris, 15h, temps universel. Bonne écoute.